Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, avec Annick Chuin, nous recevons Sylvia Ricci-Lempon, auteure de « Ne neige-t-il pas aussi blanche à hiver ?», roman paru aux éditions d'En Bas. Bonjour, soyez les bienvenus. Nous accueillons aujourd'hui une femme de lettres et d'opinion qui a la tête fort bien faite. Elle est née en Italie, mais très jeune, elle a adopté la langue et la culture française. Elle se dit aujourd'hui volontiers suissesse d'adoption. Sylvia Ricci-Lempon est docteure en philosophie et journaliste. En tant que telle, elle s'est largement engagée pour la cause féministe. Elle est aussi romancière. Ses œuvres de fiction ont été publiées pour la plupart aux éditions de l'Air. Et en ce printemps, paraît aux éditions d'En Bas un récit à la construction assez complexe qui porte un titre étrange et interrogatif. Ne neige-t-il pas aussi blanc chaque hiver? Et c'est ce roman que nous avons placé sur la table de lecture de Entre les lignes. Bonjour Sylvia Ricci-Lempon.
Bonjour.
Il faut d'abord préciser à l'égard de nos auditeurs que cette période est particulièrement riche pour vous, période éditoriale, puisque hormis le roman dont nous allons parler aujourd'hui, vous avez publié, c'était à la fin de l'année 2012, un récit en italien intitulé « Cara Clarisse », livre que vous avez directement écrit en italien, donc sans passer par les services d'un traducteur. Et j'imagine que pour une auteure francophone, comme vous l'êtes, c'est une démarche assez cruciale dans votre parcours littéraire.
Alors, en fait, l'italien est bel et bien ma langue maternelle, mais j'ai eu un parcours un peu bizarre parce que j'ai abandonné ma langue maternelle pour écrire de la littérature en français, langue dans laquelle j'ai été élevée au même titre que l'italien. J'ai vraiment été élevée dans le bilinguisme. Et c'est seulement à un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, que j'ai décidé de me réapproprier l'italien comme langue d'écriture. Ce que j'ai fait avec beaucoup de joie, beaucoup de peine aussi, parce que ce n'est pas évident de changer de langue dans le domaine de l'écriture. L'italien est une langue que j'ai toujours parlé, mais parler en italien et écrire de la littérature en italien, c'est tout à fait autre chose. Et je suis très très contente parce que ben voilà, que ce soit mon éditeur italien, que ce soit des critiques qui se sont exprimées sur le livre, tout le monde reconnaît en tout cas que mon italien est...
Il est toujours préservé, il est toujours là.
Oui, et que j'ai su bien l'utiliser sur le plan littéraire, donc ça me réjouit beaucoup.
Je me suis dit en vous lisant, Sylvia Ricci-Lempon, que votre démarche littéraire, on pourrait la rapprocher de celle de Pierre Lepori. C'est un autre auteur qui, lui, est publié aux éditions d'En Bas. Alors lui, il écrit d'abord en italien et ensuite il se traduit lui-même. Enfin, plus que se traduire, il réécrit lui-même ses romans. Je dis ça parce qu'on le recevra la semaine prochaine à ce même micro.
Alors, Pierre est un ami proche, je ne le cache pas. Donc, c'est vrai que nous en avons discuté très souvent avec lui. Nous avons eu récemment... l'occasion d'en débattre publiquement aux Journées de Soleure, où nous étions tous les deux invités justement à un débat sur écrire dans deux langues. Sa démarche est un peu différente de la mienne, il vous l'expliquera lui-même, je ne vais pas parler à sa place. Lui affirme qu'il n'est pas totalement bilingue, mais que ça n'empêche pas d'écrire dans deux langues. Tandis que pour moi, c'est un petit peu différent.
L'idée de vous traduire un jour en italien, traduire les œuvres, les romans qui ont déjà paru en français, vous a traversé l'esprit?
Écoutez, vous n'êtes pas le premier qui me pose la question. On m'a déjà plusieurs fois posé la question de savoir si j'allais essayer de me traduire moi-même, notamment mon roman en italien, si j'allais essayer de le traduire moi-même en français. Et je ne sais pas, j'ai pas décidé.
J'aimerais vous soumettre une petite phrase de Pierre Lepori, puisqu'on parle de lui, qui l'a mise dans un post-face à son dernier roman, qui est en fait son premier, mais qui est traduit maintenant en français. En français, cela donne Sampo. Et Pierre Lepori écrit ceci. « Franchir la frontière intime entre deux idiomes n'est pas un acte innocent. Le corps de la langue s'hybride. Il devient trans et intergenre. Et tant pis pour les bonnes mœurs. »
Oui, oui. Bah, écoutez, c'est un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est une adepte de l'hybridation des langues. Je prône l'immersion totale dans une langue et dans le respect le plus accompli possible du génie de la langue en question. Donc, nous avons deux démarches un peu différentes.
Allez, Sylvia Ricci-Lempone, on va revenir au livre qui nous intéresse aujourd'hui. Il n'a encore pas paru en italien, il paraît en français aux éditions d'en bas. Il est intitulé « Ne neige-t-il pas aussi blanc chaque hiver ?» et nous allons le feuilleter avec Annick Chouin. Bonjour Annick.
Bonjour Jean-Marie.
Alors je parlais tout à l'heure de roman à la construction complexe. Pour nos auditeurs, vous allez essayer d'en résumer l'argument de la façon la plus claire possible.
Oui, Sylvia Ricci-Lempone, vous me permettrez au départ de simplifier et on ira en complexifiant, j'imagine, tout au cours de l'émission. C'est un roman qui déroule le fil de deux histoires a priori sans lien. La première nous est livrée à travers les courriels envoyés par une femme qui s'appelle Constance, des courriels envoyés à son ancien compagnon Gerhard. Constance s'est retirée dans une vieille ferme dont elle a hérité et consacre son temps au silence et à l'écriture. Progressivement, elle s'enfonce dans son récit, miroir comprend-on doucement de sa propre vie, et elle entraîne le lecteur entre fiction et réalité avant de disparaître sous le regard, si l'on peut dire éloigné, mais inquiet de Gerhard. Ce premier niveau de lecture est entrecoupé par un autre texte qui évoque la vie et le cheminement intérieur d'un certain André Godard, journaliste qui va être licencié de son poste de chef de la rubrique Société, et fait divers d'ailleurs, je crois, d'un quotidien. Divers indices et correspondances permettent au lecteur assez vite, enfin ça dépend je pense de l'attention que l'on porte à vos lignes, de comprendre, je trouve quand même assez vite, que l'histoire d'André surgit de la plume de Constance. Il s'agit en quelque sorte, est-ce qu'on peut le dire ainsi, Sylvia Ricci-Lempone, d'un roman dans le roman ? Ou c'est tout autre chose ?
Non, je crois qu'on peut... On peut le dire, puis en même temps, ça ne dit pas tout de la construction, parce que ce n'est pas simplement un roman dont on sait d'avance qu'il est raconté, qu'il est en quelque sorte enchâssé dans un autre roman. Il y a une progression parallèle des deux récits et une interaction entre les deux. Donc, ce n'est pas un personnage du roman qui écrit ou raconte une autre histoire. C'est vraiment une progression non seulement symétrique, en miroir, mais dont les détails, à chaque fois, font évoluer les détails de l'autre récit. Donc, il ne s'agit pas simplement de quelque chose qui est inséré dans autre chose.
Oui, il y a des connexions, des concordances. D'ailleurs, au début, on ne fait peut-être pas forcément tout à fait attention. Puis tout d'un coup, on se dit, ah mais tiens, j'ai déjà lu ça, je vais voir ça. Il y a une femme, par exemple, qui tire, c'est des toutes petites choses hein, parfois, qui tire une petite valise à roulettes. On la retrouve dans les deux textes. Alors, cela demande, je trouve, ce roman à la fois de la concentration, de la part du lecteur, et en même temps un certain laisser-aller. Il faut se laisser emporter à lire, parce que si on s'arrête en se disant « Oh, il faut que je repère tout », on en finit. D'abord, on n'en finit pas. Puis deuxièmement, je trouve que ça trouble la lecture. Donc il y a à la fois cette attention et puis se laisser-aller. Est-ce que pour vous, ça a été un roman difficile à écrire, à construire ?
Alors, oui, ça a été un roman extrêmement difficile à construire, qui s'est construit petit à petit. Ça a pris, je dirais, des années. Bon, d'une part, il y avait tout un travail de documentation à faire, ça on en parlera peut-être après, mais du point de vue de la construction, effectivement, mon idée c'était de livrer un certain nombre de détails dans un récit ou dans l'autre qui permettent au lecteur, à la lectrice de se dire, comme vous venez très bien de le dire, Annick, qui permettent de se dire « Ah, mais j'ai déjà vu ça mmh. !» Et ça, c'est pas du tout évident à construire. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est absolument pas nécessaire de tout capter. Ça, c'est le travail de la personne qui écrit. L'essentiel pour moi, c'est que les lecteurs soient plongés dans un certain trouble et en même temps conçoive un certain attachement pour les personnages. Voilà.
Mmh. Et vous êtes fait plaisir, Sylvia Ricci-Lempone, en écrivant et en trouvant ces concordances, justement. C'est amusant à faire.
Oui, c'est très amusant à faire, mais en même temps, ça requiert un type de concentration énorme. Et même à la toute dernière lecture, même sur les dernières épreuves, j'ai encore corrigé des détails infimes parce que je me suis rendu compte qu'il fallait les corriger pour que toute la structure tienne parfaitement à mes propres yeux.
Parce c'est comme un film, il faut une script pour être sûr que le personnage a la même couleur de cheveux, la même robe.
Exactement.
Il faut pas louper ses raccords. Et pour ce faire, j'imagine que le traitement de texte est un instrument très, très précieux pour l'écrivaine que vous êtes.
Bien sûr. Bon, moi, je suis quelqu'un qui n'utilise pas le traitement de texte comme le font certains écrivains, que je respecte tout à fait, c'est-à-dire en déplaçant des blocs de texte. Non. Moi, j'écris très, très lentement. Et quand j'ai écrit, en principe, ça va rester. Mais par contre, dans la correction des détails, et surtout, effectivement, dans la représentation visuelle qu'on peut avoir sur l'ordinateur, même en séparant la page en deux, enfin, il y a toutes sortes d'astuces que l'ordinateur permet et qui aident dans un cas comme ça.
Vous usez de ce qu'on appelle aussi, en langage familier, les post-it que vous collez sur l'écran de votre ordinateur pour être sûr de ne pas louper
non,
un événement.
Non, ça j'écris à la main. Ça j'écris à la main à côté, sur une feuille. Je faire attention à ci, faire attention à ça.
Bon, nous reviendrons peut-être plus tard, Sylvia Ritchie-Lempon, à votre atelier d'écriture. Pour l'heure, Annick, nous allons nous plonger dans cette intrigue partiellement épistolaire. Nous allons entendre un premier passage que vous avez choisi.
Oui, le premier courriel envoyé par Constance à Gerhard, un courriel qui laisse transparaître l'état d'esprit de, probablement, l'héroïne, vous nous le direz, de ce roman.
C'est la comédienne Rita Gay qui sera notre lectrice aujourd'hui.
Cher Gerhard, ici l'été n'est pas tout à fait terminé et hier matin je me suis même fait piquer par une guêpe pendant que je lisais, près de l'étang, sous le noyer. Le noyer est très vieux et son feuillage, opaque et passablement clairsemé, bruisse dans le ciel au moindre souffle d'air, comme un mobile musical sous le porche d'une maison. Les écales des noix sont encore vertes. Ton téléphone d'il y a une semaine m'a surprise. Depuis 4 mois qu'aucun de nous n'avait contrevenu au pacte. Je n'ai pas compris si tu t'inquiètes pour moi, si tu crains que je souffre de ma solitude, de cette espèce de dépossession volontaire que je m'entête à expérimenter, ou si, au contraire, c'est toi qui as de la peine à t'habituer à mon absence de ta vie. Dans les deux cas, je ne sais pas trop quoi te dire. Il m'arrive souvent d'être triste, mais je ne suis pas sûre que ce soit à cause de toi, ni à cause de quoi que ce soit qui ait des contours assez précis pour être distingué des autres causes possibles de tristesse. Le défaut de consistance et d'harmonie du monde, sa faculté exagérée de résonance, le souvenir de certaines vacances, de la blancheur un peu malade des vagues l'après-midi au bord de la Méditerranée quand le soleil enfle immobile sur la mer, les enfants que je n'ai pas eus, des choses comme ça. Et pour ce qui est de toi, je ne peux plus rien faire. Ce qui nous a séparés, c'est qu'à un moment donné, les choses importantes pour toi et pour moi sont devenues beaucoup trop différentes. C'était comme un son d'une justesse impitoyable entendu à travers le brouhaha des sentiments. Comme tu le vois, je t'ai écrit, j'ai tenu ma promesse, mais je t'en prie vraiment, ne m'appelle plus au téléphone. Et si tu veux toi aussi m'écrire, ne le fais pas tout de suite. Il serait irréaliste d'imaginer que nous pourrions, par je ne sais quel refus nostalgique des pouvoirs fabuleux de nos machines, en revenir aux enveloppes et aux timbres. Mais je n'aime pas l'idée que se perde complètement la distance naturelle entre les choses. Je veux dire, laisse à ce message le temps de t'arriver. Mais je mentirais si je disais que je ne pense jamais à toi. Je t'embrasse et te souhaite chance et courage. Constance.
Sylvia Ritchie-Lempon, votre roman, on l'a dit, est constitué de nombreux courriels, de la retranscription de nombreux courriels, et c'est-à-dire qu'il se rattache à la tradition du roman épistolaire, version contemporaine.
Alors, selon l'expression de mon éditeur, c'est une correspondance borgne, parce que on lit les courriels envoyés par Constance, on ne lit pas les réponses de Gerhard.
On les imagine.
On les imagine, mais Gerhard, le correspondant de Constance, pendant tout le roman jusqu'à la fin, on ne sait pas qui c'est en fait. On le connaît très peu. À la fin, il y a un certain nombre de pages qui permettent de le connaître mieux.
À la fin, il donne sa propre version des événements.
Oui, à la fin, il donne sa propre version des événements, effectivement. Alors, oui, pourquoi pas. Je suis pas contre le fait de dire que c'est partiellement un roman épistolaire, mais encore une fois, ce n'est pas seulement cela, parce que ce que nous venons d'entendre est le premier d'un certain nombre de courriels qui sont entremêlés de passages d'un récit qui semble n'avoir rien à voir avec ces courriels. Et donc, il y a quand même deux fils narratifs bien distincts.
Et pourtant, on s'aperçoit au cours de la lecture, Annick, on faisait part tout à l'heure que ces deux niveaux de lecture concordent à mains endroits. Annick.
C'est un roman qui traite de différents sujets. C'est souvent le cas, d'ailleurs, dans votre écriture, Sylvia Ricci-Lempen. Par exemple, vous parlez d'écriture, ou en tout cas, Constance parle d'écriture dans ses courriels. Vous parlez de journalisme, du sens de la vie, de la force de l'amour, des relations aussi avec le fils, puisque, par exemple, Gerhard, on le comprend, a un fils qui lui pose pas mal de soucis. Y a-t-il un thème central? Et partant, est-ce qu'il y a aussi un personnage central dans ce roman pour qu'on en dévide les chevaux avec vous?
Oui, je dirais que le thème central, c'est l'indéchiffrabilité du monde, des choses, des êtres. Ça, c'est vraiment le thème principal. Et à ce moment, j'aimerais quand même introduire un personnage qui n'est pas un personnage humain, mais qui constitue le fil rouge de tout le roman, qui est un objet archéologique dénommé le disque de Festos, qui a été retrouvé au début du XXe siècle sur l'île de Crète. C'est un objet qui est daté du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et dont la particularité est d'être donc un disque de forme ronde, couvert sur ses deux faces de signes d'une écriture qui n'a pas été déchiffrée. Et par un biais ou par un autre, aussi bien Constance que le personnage de l'autre récit, André, ont affaire avec ce disque. Et pour moi, ce disque représente vraiment le noyau de ce que j'ai tenté de dire dans ce livre, c'est-à-dire que nous ne nous comprenons pas. Nous ne savons pas les uns les autres qui nous sommes. Et aussi que l'illusion journalistique de l'exposition totale de la vie et des choses est trompeuse. Donc il y a, vous avez mentionné, Annick, qu'il est question de journalisme, de l'évolution du journalisme contemporain, puisque aussi bien Constance que André ont affaire avec ce métier. Et il y a une sorte de correspondance symétrique entre, d'une part, il y a des récits de la vie d'une rédaction où on voit à quel point on cherche à tout dire, à tout expliquer, à tout exposer.
À tout déchiffrer.
À tout déchiffrer, exactement. Et puis, de l'autre côté, il y a ce disque qui traverse aussi tout le livre et qui est tout sauf transparent.
Et c'est pour ça qu'il figure sur la reproduction, en reproduction, sur la couverture du livre.
Ouais,
Annick.
Ouais.
Eh bien, je vous propose d'écouter ce que dit Constance ou ce qu'écrit Constance dans un autre courriel, ce qu'elle dit de ce disque. Courriel, je vous le rappelle, qu'elle envoie à son ancien compagnon et qui nous donne aussi la clé du titre de votre roman.
Cher Gerhard, cette nuit est tombée la première neige, par surprise. Il y a longtemps, un amant m'avait écrit « Ne neige-t-il pas aussi blanc chaque hiver ?» C'était une phrase pour dire la candeur de l'amour. À présent, je l'entends comme la révélation du tout petit peu que nous pouvons comprendre, à notre mesure humaine, de l'éternité. Je ne te reproche pas ta perspicacité. Je te reproche de vouloir me voler mon secret. Il y a du vrai et du faux dans ce que tu as cru deviner. Je ne suis pas en train d'écrire une enquête policière sur l'énigme fascinante du disque de Festos. Tu as trop surfé sur les sites nord-américains. Même si ce serait le meilleur moyen d'éveiller l'intérêt d'un hypothétique éditeur pour le premier et sans doute l'unique roman d'une inconnue. L'histoire du disque, pour moi, c'est une histoire qui tourne en rond, qui n'a pas de solution, qui ne peut pas en avoir. Je crains effectivement que ce ne soit pas très commercial. Je m'aperçois que je ne t'ai encore jamais parlé de ma maison. Sous l'auvent, il y a un banc avec un coin cassé. Recouverte de neige, au milieu de la neige, dont la beauté a usé tous les maux, elle reste plus que jamais dissemblable de toutes les autres maisons de la terre. La mélancolie est plus forte que la joie. Sa force est de n'avoir ni cause ni remède. Tu te sens comme une terre submergée par l'eau et tu ne peux qu'attendre que l'eau se retire. Je t'embrasse. Constance.
Dans les interlignes d'Espace 2, entouré d'Annick Chuin, je reçois Sylvia Ricci-Lempen, auteure d'un roman fraîchement paru aux éditions d'En Bas. Son titre, « Ne neige-t-il pas aussi blanc chaque hiver ?» Rita Gay en lisait à l'instant un passage. Et de ce passage, je retiens cette phrase qu'écrit Constance. « C'est une histoire qui tourne en rond, qui n'a pas de solution, qui ne peut pas en avoir. Je crains effectivement que ce ne soit pas très commercial. » Sylvia Ricci-Lempen, lorsque vous publiez un roman comme celui-ci, est-ce que vous vous posez la question de l'aspect commercial du livre ? Sera-t-il reçu par un grand nombre d'auditeurs, de lecteurs surtout ?
Non, je ne crois pas appartenir à la catégorie des écrivains qui écrivent en se souciant à l'avance de ce qui se vendra. Cela étant dit, la préoccupation d'être écoutée et reçue, c'est une préoccupation qui habite toute personne qui écrit. Donc, je mentirais si je disais que je ne m'en préoccupe pas du tout, mais cela n'a pas changé d'un iota le projet que j'avais envie de mener à bien. Maintenant, j'ai l'espoir que ce que j'ai écrit puisse être lu, que ce que j'avais à dire puisse être entendu, mais j'avoue que je n'ai pas fait grand chose pour le rendre plus facile, plus digeste, parce que ce n'est pas possible. Vous savez, moi, j'ai étudié la philosophie et puis on m'a souvent dit, mais les philosophes, on comprend pas ce qu'ils disent, vous pouvez pas utiliser des mots plus simples. Et ben non. Non, on peut essayer de vulgariser en philosophie, donc, mais il y a quand même des concepts qui ne peuvent pas être encore une fois rendus transparents parce que la philosophie, ça consiste à définir les choses, donc on peut pas fournir des définitions toutes faites. Là, ça n'a pas grand chose à voir avec mon roman.
J'ai compris tous les mots dans votre roman.
Voilà, je crois pas que ça soit c'est pas les mots qui sont difficiles, c'est pas les références culturelles qui sont excessives, c'est la structure.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une histoire qui n'a pas de solution et qui tourne en rond?
Le disque de Festas est un disque sur lequel cette écriture non déchiffrée a une forme de spirale. Mais la bizarrerie de cette spirale, donc ça c'est pas moi qui invente, hein, je l'ai attentivement étudié ce disque. J'ai été flashée en le voyant lors d'un voyage en Crète et c'était l'évidence même, ah, c'est sur ça que je dois écrire. Donc j'ai construit tout le roman à partir de ce flash, de ce choc que j'ai eu au musée d'Héraclion. Mais enfin, je reviens à la structure du disque. C'est une spirale, mais vous voyez, quand vous êtes dans une séance et que vous vous ennuyez et que vous dessinez des spirales...
On fait des graffitis.
Ben, y a toujours un bout de la spirale qui reste dans le vide. Hein? Tandis que là, on ne sait comment, ben, les auditeurs qui auront la curiosité de prendre le livre en main pourront le voir parce que j'ai demandé à l'éditeur de le reproduire.
Il y a des reproductions à la fin.
La spirale se referme sur elle-même au moyen d'un décrochement. Et il y a, en fait, dans ce décrochement qui permet à la spirale de se refermer, la réponse à la question que vous venez de me poser. C'est-à-dire que, à la fois, ça progresse et ça tourne en rond. Et ça peut pas avoir de fin parce que l'histoire recommence tout le temps.
Peut-être une belle métaphore de la condition humaine. Annick.
Vous parliez philosophie, Sylvia Ricci-Lempen. Vous avez écrit des essais. D'ailleurs, là, vous écrivez une fiction et c'est véritablement un roman. Et peut-être, j'ai envie de rassurer aussi les auditeurs parce que là, peut-être à ce stade, ils se disent c'est un roman compliqué. Qu'est-ce que je vais comprendre? Eh bien, comme Jean-Marie, on comprend tous les mots et non seulement on comprend tous les mots, mais il y a de véritables histoires, des histoires de gens comme, j'imagine, vous et moi. Il y a des personnages incarnés. Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure, Sylvia Ricci-Lempen. Alors, il y a une héroïne qui est le centre, comme le disque est aussi un centre, une héroïne dans ce roman.
Oui, c'est Constance, bien sûr. Et pour moi, c'est très important que ce soit elle, parce que, en fait, donc c'est comme les lecteurs, les lectrices le verront, c'est elle qui tire toutes les ficelles, finalement, toutes les ficelles de toutes les histoires. C'est elle qui les tire, mais pas dans la posture d'une marionnettiste un peu cruelle. Elle-même souffre de tristesse, de mélancolie. C'est pas quelqu'un qui froidement se met en tête de manipuler ses personnages et les personnes de la vie réelle qui sont dans sa vie. C'est une tireuse de ficelles très empathique et qui accompagne les gens qu'elle fait progresser sur le chemin de leur vie. Donc, mais c'est elle qui est le centre. Et pourquoi pour moi, c'est important que ce soit une femme, parce que je suis frappée par le fait que les tireurs de ficelles, en général en littérature, sont des hommes.
Et ce sont des manipulateurs. Ce qui est un terme assez peu... comment dire,
bah, tout ce que Constance
très peu positif. Oui. Comme vous nous parlez de Constance, on a l'impression que c'est plutôt une guide spirituelle.
Oui.
Je l'ai perçu comme ça.
C'est un bien grand mot, mais c'est vrai que la vie spirituelle, au sens très large, occupe une vaste place. Elle se cherche. Elle, d'ailleurs, on apprend qu'elle a fait un petit séjour dans un couvent. Tout en n'étant pas croyante, mais pour essayer de savoir ce qui se passe dans un lieu voué au silence, à la méditation, à la prière. Elle a décidé de tout quitter. Elle faisait une carrière dans le journalisme, justement. Elle avait un compagnon qui l'aimait profondément et qu'elle aimait, du reste. C'est ce fameux Gérard dont la voix ne s'entend qu'à la fin. Mais disons que Gérard, on apprend vers la fin que c'est un homme d'affaires extrêmement brillant, que c'est quelqu'un...
Lui, il est bien implanté dans le monde.
Il est bien implanté dans le monde. Et Constance s'est volontairement mise dans une position très marginale. Solitaire et marginale.
Mais on a l'impression, Sylvia Ricci-Lempen, qu'elle ne peut pas faire autrement. Que cette absence au monde qui peu à peu la gagne, elle ne peut même pas la refréner.
Oui, je pense que dans des choix aussi radicaux,
nécessité.
Oui, il y a une part de nécessité.
Et on ne saura pas exactement pourquoi non plus, ça fait partie du mystère. Ce n'est pas un roman dont vous donnez toutes les clés.
Non, mais écoutez...
C'est un roman qui n'a pas de solution, je vous rappelle, Annick. Oui.
Dans tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent, je crois n'avoir jamais donné de solution ou de conclusion très claire à la fin. L'ouverture finale, ça fait aussi partie de la spirale. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne saura pas. Je peux ajouter, même si vous ne me posez pas la question, que... je l'envie beaucoup, cette Constance, parce qu'au fond, elle a poussé jusqu'au bout quelque chose qui me hante, un choix de vie qui me hante personnellement.
Vous disiez Constance est marginale, mais elle est tellement marginale qu'à un moment donné, elle sort du tableau, disparaît complètement du cadre de votre roman.
Ouais.
Et ça, c'est en effet un événement qui n'a pas de solution et qui était...
Oui,
expliquer.
Vous l'enviez, mais c'était une question. J'attendais juste un petit moment encore pour la poser. Vous savez, ces fameuses questions, on attend prudemment de la poser à l'auteur.
Excusez-moi de vous avoir
bousculé.
Brûlé la
non. Ah non, pas du tout. c'est au fond la part de Constance. Vous dites que vous l'enviez.
Oui.
Donc Constance, ce n'est pas vous, mais vous êtes un écrivain. Vous avez été journaliste, comme elle est journaliste. On parlera de ce thème qui est important plus tard dans le livre. Par exemple, très concrètement, vous retirez pour écrire, c'est aussi quelque chose que vous faites.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai habité pendant 12 ans dans une maison qui ressemble un peu à la maison
dont
nous avons entendu parler dans l'extrait que Madame Gay a lu il y a un instant. C'est pas absolument la même, puis ma vie est bien sûr très différente de celle de Constance, mais c'est vrai qu'il y a eu et il y a encore cette tentation qui ne sera pas, en ce qui me concerne, qui ne sera pas accomplie. Pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas exposer, mais elle est allée jusqu'au bout. Et je crois que ça peut arriver qu'un écrivain, une écrivaine fasse faire à son personnage ce que elle ou lui n'a pas le courage ou la possibilité de faire. C'est une manière de le faire par personne
interposée,
par procuration, voilà.
Alors nous avons fait plusieurs fois allusion au roman dans le roman au cours de cette conversation. Celui qui a écrit le personnage nommé Constance, il est temps maintenant d'en entendre un passage, Annick, de ce roman.
Oui, et on va faire connaissance avec André, héros masculin de ce roman dans le roman. André, qui est lui aussi journaliste. Et c'est l'occasion pour vous, Sylvia Ricci-Lempen, et Constance d'ailleurs, de nous décrire quelques aspects du métier et de la forme du roman qui devient plus légère, plus concrète peut-être aussi pour nous.
C'est toujours Rita Gay qui nous offre ce texte en lecture.
La première séance des journalistes et cadres du Miroir sur le projet de lancement d'une édition online avait commencé depuis environ 10 minutes. Une voix affirmait, celle de Dipan, le webmaster, qu'il faudrait dorénavant s'habituer à couvrir le futur plutôt que le passé. « Comment ça, couvrir le futur ?» demanda quelqu'un en bout de table. « Eh bien, lui répondit Dipan, tu te souviens des fameuses 6 questions. Quand, où, qui, quoi, comment, pourquoi, auxquelles tout article est censé répondre. Elles seront remplacées par une autre. What's next? Il y eut quelques rires, mais le webmaster fit observer qu'il ne s'agissait nullement d'un trait d'esprit gratuit. Il ne faisait que rendre compte du constat unanime de toutes les enquêtes sur la presse online. Le responsable de la page littéraire du jeudi remarqua que déjà maintenant, dans l'édition papier, la pression de la concurrence obligeait à parler des best-sellers probables avant de les avoir lus. Une rédactrice de la rubrique nationale assura qu'en tant que lectrice de la rubrique culturelle, elle n'était pas toujours capable, bien qu'elle fût journaliste, de distinguer du premier coup d'œil une avant-première d'une critique. Un rédacteur de la rubrique économique suggéra qu'on parle d'autres domaines que de la culture, qui était quand même un cas particulier. Le chef de la rubrique internationale déclara que, à son avis, le véritable enjeu n'était pas tant d'anticiper les événements futurs que de réduire au maximum le décalage entre le présent de l'information et le passé des événements. Telle était, d'après lui, l'attente des lecteurs. Le responsable de la page « Voyage » du vendredi se demanda si la tendance, malheureusement trop répandue, à démoniser les nouvelles technologies ne trahissait pas, tout simplement, une monstre trouille de l'avenir. Le ton monta. Il fut question de l'intelligence des lecteurs, à l'inverse de la désastreuse cécité éthique induite par le culte de l'immédiateté. Puis le débat prit une autre tournure quand un rédacteur de la rubrique locale demanda qu'on laisse de côté la controverse idéologique pour parler des nouvelles conditions de travail qui accompagneraient la mise en place de l'édition online. La rédactrice en chef, qui avait pris d'abondantes notes, signala alors d'un geste qu'elle allait parler.
Cette page de votre roman, Sylvia Ricci-Lempone, résume bien, me semble-t-il, les questions que se posent depuis le tournant numérique tous les journalistes, et notamment les journalistes de la presse écrite. On rappelle que vous l'êtes, journaliste, vous avez longtemps collaboré au quotidien Le Temps, et ce qu'on vient d'entendre semble très inspiré des nombreuses séances de rédaction auxquelles vous avez dû assister.
Oui, tout à fait, bien sûr. J'ai quitté le statut de journaliste salarié vers le début des années 2000. Et effectivement, ce passage, comme d'autres passages, se réfère à l'expérience que j'ai fait à ce moment-là, qui était vraiment le moment du tournant. Je n'ai pas une attitude nécessairement critique. J'ai plutôt une attitude ironique, parce que personnellement, c'est un métier que j'ai aimé jusque dans certains développements contemporains. J'ai l'impression que les journalistes sont aujourd'hui entraînés par une espèce de tsunami enfin, je parle des journalistes d'information surtout, hein, mais les autres aussi par ricochet. Donc, j'ai eu envie de restituer un vécu personnel qui me tenait à cœur d'exposer, notamment parce que c'est un vécu qui incarne bien cette notion de fausse déchiffrabilité du monde, qui est mon thème central. Il y a un moment dans un autre passage où on raconte une conversation entre journalistes, et puis il y en a un ou une qui dit « on s'est bêtement fait griller, il fallait publier ». Ça, c'est, j'ai entendu ça de nombreuses
mais
fois.
Mais il nous arrive de l'entendre aussi dans la maison, vous savez.
c'est quelque chose.
C'est un réflexe de journaliste. Avoir la primeur.
Et les gens ont le droit de savoir. Moi, j'ai beaucoup de perplexité par rapport à cette manière d'aborder les choses. On va pas s'embarquer dans une réflexion sur la notion de transparence. On en parle beaucoup en ce moment, et puis on peut la voir de différentes manières. Mais cette idée que tout doit être étalé, tout doit être dit, et le plus vite possible, et même avant que ça se passe, en fait, c'est une idée que je trouve angoissante, anxiogène, qui incarne pour moi quelque chose qui dépasse bien l'univers du journalisme.
Oui, qui vous montrait parfois un regard un peu déformé sur les événements au tout début du roman. André, je le rappelle, qui est donc journaliste, est supposé faire la une du journal. Donc il est là en train de se dire, oups là, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Et tout d'un coup, et c'est les mots que vous utilisez, par chance, un grave accident de train s'est produit. Ouais. Par chance, il y a pas mal de morts. Donc hop, la une est assurée. C'est d'ailleurs des moments assez drôles dans votre livre. C'est une critique assez souriante. brillante. Et puis dans un autre passage que nous avons, que Rita nous a lu tout à l'heure, Constance très joliment demande à Gerhard, et d'ailleurs il s'appelle Gerhard au passage parce qu'il a un léger accent allemand, elle lui demande de laisser à son message électronique le temps d'arriver. Vous plaidez donc là aussi pour une certaine lenteur.
Bah, écoutez, nous sommes tous et toutes habitués à répondre à toute vitesse aux messages que nous recevons, tout simplement parce que nous en recevons trop.
Bien justement, sûr, on en laisse tomber quelques-uns comme ça.
On en laisse, oui. Mais voilà, à tel point que moi, ça m'arrive de plus en plus souvent et ça me préoccupe beaucoup d'expédier un message pas fini. Mais juste parce que j'ai voulu vite répondre. L'idée, c'est de dire, bon, on est dans les messages électroniques, on va pas revenir en arrière, et c'est
et
merveilleux.
Et d'ailleurs, vous êtes une bonne utilisatrice.
J'en suis bonne, mais j'adore ça. Donc voilà. Simplement, il y a un certain type de message qu'il faut laisser un petit peu reposer. Et moi, ça m'arrive. Des messages plus importants, des messages de gens avec qui j'ai des échanges plus profonds, je les laisse attendre.
Des échanges épistolaires, justement.
Oui, oui, je les laisse attendre. Et puis, ils sont souvent plus longs que les autres. Et puis, ça fait rien. Le ou la correspondante sait très bien que nous allons nous répondre dans une semaine, dans 10 jours. C'est pas grave. Au contraire, c'est mieux.
Donc, on ne s'inquiète pas si vous ne répondez pas tout de suite.
Oui, mais on ne peut pas faire ça avec tout le monde.
Pas avec les journalistes, Sylvia Ricci.
Apparemment, vous avez beaucoup communiqué par courriel interposé. Non,
vous nous avez expliqué pourquoi Constance est une femme, enfin pourquoi, à vos yeux, ce personnage central devait être une femme. Mm-hmm. Mais le personnage central du roman, dans le roman, c'est un homme, André.
Oui.
Pourquoi ?
Mais c'est un homme comme je les aime.
Ah voilà, vous rêvez encore.
Mais moi j'aime les hommes un peu.
Qu'est-ce que ça veut dire, vous rêvez encore?
Parce que Sylvia nous disait qu'elle souhaitait un jour se retirer, qu'elle enviait Constance. Donc je me dis que dans ce livre, il y a beaucoup de choses que vous auriez.
Moi j'aime les hommes, les hommes qui me touchent sont des hommes un peu dépressifs. Pas débattants, des hommes qui se posent beaucoup de questions, des hommes qui ont connu des échecs, des hommes qui ont une sensibilité qui fait que ce sont pas de bons candidats à la course au succès, ce qui est
donc
tout à fait
parfait,
le,
André, oui.
C'est moi qui l'ai inventé, donc. Ah oui. Mais c'est vrai que même dans un de mes romans précédents qui s'appelle Avant, il y a aussi un personnage d'homme qui est un peu de ce type-là. Enfin, c'est des personnages qui existent dans ce que j'ai écrit parce que c'est les personnages masculins pour lesquels j'ai de l'empathie.
Ils existent dans la vraie vie, je peux en témoigner.
Et ils existent dans la vraie vie.
André, est licencieux parce qu'en fait, il est inadéquat dans son métier. On comprend qu'il y a une rédactrice en chef qui le trouve vraiment trop timoré. Enfin bref, tout sauf ce que l'on souhaite d'un journaliste aujourd'hui. Et puis, pendant une bonne partie du récit, il se laisse un peu faire. Il se dit, après tout, je suis licencié, ça va peut-être m'apporter quelque chose. Il part en thalassothérapie. C'est là, d'ailleurs, en Crète, qu'il tombe sur le disque de Festos. Et puis, page 145, ce n'est plus un récit à la troisième personne. Sylvia Ricci-Lempone, vous êtes en train d'ouvrir le livre. Vous vous êtes dit, oula, qu'est-ce qu'elle va me raconter. Voici la phrase, c'est le premier dimanche de ma nouvelle vie. On passe au « je ». Ça veut dire aussi que cet homme dépressif prend en main sa propre vie, non ?
Oui, mais en fait, dans un premier temps, il a juste été viré de son poste de chef de la rubrique société. C'est là qu'il part en thalasso, qui a toute cette période que vous venez de décrire. Et puis, finalement, il se fait virer pour de bon.
Et ça, c'est une chance, en fait.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à parler à la première personne.
André et Constance se ressemblent ?
Oui, ils se ressemblent de par le métier qu'ils ont exercé. De par leur nom, qui sont... l'un s'appelle Godard et l'autre Dargo.
Mais moi, je n'avais pas vu, heureusement que Jean-Marie était là.
Par contre, alors, André a une vie totalement différente de celle de Constance, puisqu'il est père d'un jeune homme... comme Gerhard, par ailleurs. Par contre, Constance n'a pas eu d'enfant. Donc, ça, c'est quand même une différence assez importante.
Alors, puisque André a enfin trouvé l'usage de la première personne du singulier, on va en profiter. Il a trouvé son jeu. On va entendre un dernier extrait tiré de votre roman, Sylvia Ricci-Lempone. Vous nous le situez, Annick ?
Oui, c'est un passage tiré donc du roman dans le roman, donc on est autour d'André là, comme aimanté par une force surnaturelle, il va se promener comme par hasard du côté d'une ferme très retirée et il va croiser le chemin d'une femme et c'est un moment qui sera, on le comprend aussi, le pivot de sa transformation et contre toute attente, cette femme hors du monde lui ouvre sa porte et brouille encore une fois les pistes.
Elle m'a dit de l'appeler Constance. Et je suis trop troublée pour me souvenir de lui avoir dit de m'appeler André. En tout cas, elle m'appelle ainsi, de sa voix bien timbrée, dénuée de toute curiosité. Je lui ai dit avoir cru qu'elle était mathématicienne, et elle ne s'informe pas de ce qui m'a conduit à formuler cette bizarre hypothèse. Mais elle n'est pas non plus experte en fonds marins. Puis elle ajoute une chose que je ne comprends pas, inexplicablement, car elle parle toujours de la même voix musicale et distincte, ou bien alors c'est moi qui me serais distrait, qui, au moment crucial, aurais pensé à autre chose, à la trace de suie, à comment elle fait l'amour. À propos d'un roman où il y a très peu de chiffres, où il n'est question que deux ou trois fois de la mère, je me serais distrait au lieu de l'écouter, ou bien alors ces mots se seront déliés de leur valeur d'échange habituelle. Je hasarde. Vous êtes un personnage de roman ? Quand on écoute trop fort, avec trop d'attention, il arrive parfois qu'on entende à l'envers, qu'on entende la chose la plus improbable, la plus contraire au sens normal des mots. Et c'est seulement quand on formule cette chose à haute voix qu'on s'aperçoit que tout était beaucoup plus simple. Je me corrige. Vous écrivez un roman ? Et en même temps, je rougis. Parce que dans ce roman, dont elle m'aurait révélé l'existence, elle raconte certainement sa vie la plus intime. Et il se pourrait que je le lise un jour, apprenant par exemple à quoi elle pense lorsqu'un promeneur inconnu s'arrête devant chez elle, lorsqu'elle le fait entrer par le couloir obscur. Mais de ma vie à moi, on dirait qu'elle sait déjà tout, parce que sur moi, elle ne me pose aucune question. C'est pour écrire ce roman qu'elle est venue ici, dans cette maison qu'elle a héritée d'une grande tante riche et sans enfants. Elle non plus n'a pas d'enfants. Alors je force le passage, n'attendant pas qu'encore une fois elle ne me pose pas la question. Moi, j'ai un fils qui a 19 ans, qui s'appelle Christophe. Un homme qu'elle a aimé, dit-elle, a un garçon du même âge, qui s'appelle, lui, Thomas, et dont elle s'est un peu occupée. Elle ajoute sans nécessité que ce jeune homme vit à Florence. Information qui me fait frissonner.
Ricci-Lempone, c'est un roman imbriqué, un roman dans le roman, c'est un roman à tiroir si je peux dire les choses un peu crûment. Et puis en même temps, les personnages sont tous très incarnés, enfin tous. En tout cas, André, dont on comprend que c'est lui finalement le personnage du roman, sont très incarnés. Cela vous tenait à cœur que ces personnages aient une réalité ?
Ah mais bien sûr, bien sûr. Écoutez, chaque écrivain, chaque écrivaine essaye, dans la mesure de ses moyens, d'écrire les livres qu'il ou elle a envie de lire. Et moi, les livres que j'ai envie de lire sont des livres à la fois intelligents, mais incarnés, très incarnés. J'ai envie de pouvoir croire au personnage. J'ai envie qu'il y ait des idées. J'ai envie qu'il y ait même éventuellement de la métaphysique. Mais j'ai envie que tout ça passe par des personnages qui soient attachants, dans lesquels j'ai envie de croire.
Ils ont de la chair. Et par exemple, est-ce que l'amour a de l'importance dans ce roman? Parce qu'André, est-ce de l'amour? Il rencontre cette femme et sa vie va changer.
Alors, l'amour a de l'importance, a une importance énorme dans ce roman pour André. On verra à la fin qu'il a une importance énorme pour Gerhard. Quant à Constance, la question reste ouverte parce qu'elle a été capable de tomber amoureuse de Gerhard, puis en même temps elle l'a quitté sans véritable nécessité. Et ce que Gerhard dit à la fin, c'est que je pense qu'elle m'a aimé, je suis même sûre qu'elle m'a aimé, mais j'ai l'impression qu'il y avait autre chose dans sa vie qui comptait plus que l'amour. Et ça aussi, c'est rare qu'une femme dise ça. Et je ne l'ai pas planifié, mais à la fin, je me suis dit, ah ben je suis contente que ce soit une femme qui dise ça, parce que on a toujours une image tellement des femmes tellement esclaves de l'amour. On dit toujours que les femmes font passer l'amour, enfin que c'est leur intérêt principal dans la vie, même si elles font des tas d'autres choses. Et bien là, sans m'en rendre vraiment compte, ben, j'ai créé un personnage de femme qui sait ce que c'est que l'amour, mais qui, dont son compagnon dit, mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose pour elle plus important que l'amour. Et...
Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'important ou c'est parce qu'elle est libre? Qu'est-ce qui pourrait être plus important? L'écriture, un rapport à la vie, au monde?
La recherche de soi, oui. L'écriture pour Constance, effectivement, mais voilà, ça pourrait être un choix mystique, comme pour les
carmélites,
les carmélites chez qui elle va habiter quelques jours. Pour elle, l'amour d'un homme compte moins qu'autre chose.
Et votre choix à vous, Sylvia Ricci-Lempone, et nous allons conclure comme ça, c'est quoi, la mystique maintenant pour ces prochaines années,
non,
ou c'est l'écriture?
Pas du tout.
Ou peut-être
non.
Les deux?
Non. J'ai foncièrement pas. Là, avec Constance, j'ai un peu forcé la dose. J'ai pas vraiment un tempérament mystique, mais l'écriture, oui, la plongée dans l'écriture, c'est ce que j'espère de la suite de mon existence. C'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Le prochain projet de roman est dans ma tête et j'espère qu'il se réalisera.
Nous allons donc refermer ce roman sans fin et sans solution, en forme de spirale. J'en rappelle le titre, « Ne neige-t-il pas aussi blanc chaque hiver ?» Il est édité aux excellentes éditions d'en bas. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie, Sylvia Ricci-Lempone.
Merci à vous.
Entre les lignes vous était proposé aujourd'hui par Annick Chuin et Jean-Marie Félix. Les lectures étaient assurées par Rita Gay, la diffusion en régie par Dominique Stalder et l'assistance à la production Madeleine Techer, un trio de femmes qu'on remercie. Pour une réécoute ou un téléchargement, je vous renvoie, vous auditeurs, à la page internet de l'émission. Page que vous devez connaître par cœur, je vous la répète tous les jours, rts.ch/entre-les-lignes. Demain, William Erigoyen vous proposera un entretien avec Lionel Marek, auteur d'un livre très personnel autour de son père, lui aussi écrivain, Jacques Sternberg ou L'œil sauvage, livre paru aux éditions de L'Âge d'Homme. Et après les infos, ce sera Magma, le magazine des musiques actuelles. Vous écoutez RTS Espace 2, il est très exactement midi.